L'abbé Jules, première partie, chapitre 3, suite. Justement, un matin, l'abbé Jules, très dispos et de bonne humeur, demanda à l'évêque « Pensez-vous à votre mandement, monseigneur ? Voici le carême. » « J'y pense, certainement, j'y pense, » répondit le vieillard avec une mine effrayée. « Ah, quelle terrible chose !»«
Pourquoi terrible ?»
interrogea l'abbé.
« Mais mon cher enfant, terrible à cause des responsabilités, des ménagements.
Dans la situation que j'occupe, une situation de paix, de concorde, de réconciliation, il faut tant de prudence, ne froissez personne. Tout cela est d'une délicatesse. »
L'abbé sembla prendre un vif intérêt aux embarras de son évêque.
« Sans doute, » fit-il, « c'est très délicat. Voulez-vous que nous en causions un peu ?»«
Je ne demande pas mieux, » balbutia l'évêque, qui ne put dissimuler une grande inquiétude.
« Mais vous êtes bien ardent, mon cher abbé. Les jeunes gens ne voient pas les choses comme les vieillards. Ils vont, ils viennent, et puis... Tandis que... voilà. »
Il balançait la tête d'un air grave. Son front se plissait, ses lèvres, collées l'une contre l'autre, laissaient échapper des petits claquements brefs et clairs.
L'abbé répondit d'une voix onctueuse en s'inclinant respectueusement.
« Aussi, monseigneur, ne me permettrai-je pas de vous donner un conseil. Je tiens seulement à vous répéter ce qui se dit de vous dans le monde catholique. »
L'évêque eut un soubresaut. Ses yeux étaient devenus tout ronds, effarés.
« On dit quelque chose de moi dans le monde catholique ? Et que dit-on ?
D'abord, il n'y a qu'une voix pour approuver la façon dont vous administrez le diocèse. On fait de votre piété, de votre charité, de votre justice les plus grands éloges. Seulement, on se plaint que, dans certaines occasions graves, vous ne vous affirmiez pas assez. On trouve, par exemple, vos mandements un peu gris, un peu fuyants. Ce n'est pas enfin ce qu'on attend de votre grandeur. »
L'évêque s'agitait nerveusement sur son fauteuil.
« Ce qu'on attend de ma grandeur ? Ce qu'on attend ? Je ne puis cependant mettre tout à feu et à sang, voyons. Ce n'est pas dans mon rôle. Je ne suis pas un spadassin. »
« Mais, monseigneur, on ne vous demande rien de pareil, » reprit l'abbé qui fit un geste de douce protestation.
« On voudrait une plus grande fermeté, une autorité plus hautaine dans vos actes publics, plus de caractère, plus de flamme. C'est bien différent. »
S'exaltant peu à peu et se prenant lui-même comme un comédien, au propre piège de sa mystification, il continua sur un ton enthousiaste, auquel l'émotion d'une chose véritablement ressentie donnait des accents de sincérité.
« On voudrait qu'en face de la philosophie athée qui monte, déborde, s'installe dans les chaires officielles, ouvertement protégées, payées par le gouvernement, en face des attaques furieuses multipliées contre l'Église sainte, on voudrait qu'une voix s'élevât, vengeresse et consolatrice tout ensemble, le cri de révolte et d'espérance d'un grand chrétien. Les temps sont mauvais, monseigneur. De toutes parts, la société craque, la religion s'effondre, tout se désagrège et pourrit. En haut, sur le trône, l'orgie étalée et frontement, l'orgie légale. En bas, la bête affamée qui hurle, impatiente de sang. Partout la déroute, l'affolement, le vertige du sauve-qui-peut. Des générations abominables se préparent, qui, si l'on y met bon ordre, iront déclouer sur les calvaires le corps du Christ et transformeront en banque ou bien en lieu de débauche nos lieux découronnés du symbole rédempteur. Vous avez charge d'âme, et les âmes ont besoin d'être soutenues dans la foi, encouragées dans la lutte, rassurés dans le danger. Il n'est pas bon qu'on se désintéresse de leur destinée morale.
Et c'est une désertion dont Dieu vous demandera compte que de parler de paix et de concorde quand la guerre est déclarée, que l'ennemi est sur nous et qu'il nous harcèle. Voilà ce qu'on dit dans le monde catholique. On dit encore « Mais sapristi, je ne vois pas ça du tout !» interrompit l'évêque qui avait écouté, bouche béante d'étonnement, la violente sortie de l'abbé. « Ces gens-là sont fous! De tout temps il y a eu des braves gens et des mauvaises gens. Il en sera toujours ainsi. Que puis-je faire à cela? Ce n'est pas moi qui ai créé le monde. Voyons, dites-moi, ai-je créé le monde ?» Jules poursuivit d'une voix plus âpre et mordante. « Je ne juge pas, monseigneur, je répète. On dit encore que cela peut être agréable de vivre dans un palais, d'y être bien nourri, bien vêtu, bien au chaud, de cultiver des fleurs, de rimer des vers badins, de recevoir des hommages et de bénir des passants. On dit que c'est facile d'écarter avec soin toutes les responsabilités qui menacent le repos, trouble les digestions et les sommeils, de fermer les yeux pour ne rien voir de ce qui chagrine, de se boucher les oreilles pour ne rien entendre de ce qui supplie. Mais on dit aussi que cela n'est ni beau, ni honnête, ni chrétien, que cela ressemble fort à la trahison d'un chef qui, le jour de la bataille, abandonnerait ses soldats et les laisserait mourir sans leur porter secours. On dit encore que pour agir ainsi, il faut avoir des raisons secrètes. On dit encore « On dit des bêtises !» s'écria l'évêque, qui, très pâle, le visage égaré, se leva de son siège et, tournant le dos à l'abbé, marcha dans le cabinet avec agitation. Mais bientôt, il craignit de s'être montré trop vif. Il ne voulut pas rester sur ce mot et sur cet audacieux geste, susceptible de déchaîner chez l'abbé une de ses terribles colères, comme il en avait tant essuyé. Et calmé, tout d'un coup, il revint près de lui. « Voyons, mon cher enfant, réfléchissez. Vous me parlez de l'empereur. Qu'est-ce que l'empereur a de commun avec un mandement de carême? Tout le mal dont nous souffrons vient de lui. Toute l'impiété, toute la pourriture dont nous mourons viennent de lui. Sous ses apparences hypocrites d'amis de l'Église, sous l'insultante protection dont il fait semblant de nous couvrir, il est le grand agent de destruction, le... Ptatatata ! Qu'en savez-vous ? Je le sais, fit l'abbé d'un ton net, tranchant, qui n'admettait pas de réplique. Alors le prélat, découragé, se laissa tomber dans son fauteuil. Tout l'effort dont il était capable, il l'avait donné. Sa résistance faiblissait. Il sentait qu'il ne lui était pas possible d'aller au-delà. Les paroles de Jules le troublaient aussi dans sa conscience. Il comprenait la justice de ses reproches, dont il n'était pas en état de discerner l'exagération sous la sonorité des phrases prud'homesques et déclamatoires. Pourtant, il ne se rendit point, tenta de lutter encore. « Mon cher enfant, gémit-il, voyez donc dans quelle fausse situation l'on me mettrait. L'empereur, mais c'est lui qui m'a nommé. Et puis, j'illumine au 15 août. Oh, monseigneur, soupira Jules tristement. Les grands saints, les grands martyrs, ceux-là même que vous honorez, ceux dont vous relisez chaque jour la sublime histoire, ne parlez pas comme vous faites. C'est sur les marches souillées des trônes qu'ils allaient porter la parole de vérité. C'est au milieu des foules hostiles qu'ils confessaient leur foi. C'est à la face des tyrans qu'ils poussaient le cri d'anathème. » L'évêque pensa « C'étaient des insurgés que vos saints. » Mais il n'osa point exprimer cette irrespectueuse opinion, et il regarda l'abbé de coin qui se taisait. Celui-ci, debout, la tête haute, les yeux noyés d'extase, la bouche encore frémissante d'imprécation, ressemblait à un prophète. Et véritablement, à cette minute précise, oubliant la comédie qu'il était venu jouer à l'évêque, c'était un prophète. tout un monde mystique et visionnaire remuait en lui. Comme Isaïe, il se fût fait scier en deux le sourire aux lèvres. Il eût marché au martyre avec ivresse. Il se retira lentement, laissant un grand trouble dans l'âme du prélat. Sans se lasser jamais, Jules revint à la charge. Il avait conservé son masque inspiré, mais ce n'était plus qu'un masque couvrant le ricanement du mystificateur. Chaque jour, il apportait de nouveaux arguments, lançait de nouvelles menaces, et l'évêque, obsédé, tyrannisé, mis à la torture par cet impitoyable bourreau, cédait peu à peu sur tous les points. Pourvu qu'il ne fût pas question de l'empereur dans le mandement. Il ne voulait point qu'on touchât à l'empereur. Il ne le voulait point. Ses dernières forces se concentraient sur ce but unique. Sans cesse, il répétait « Cela, non, jamais. Il m'a nommé. Et puis, il y a des ordonnances inflexibles. Je veux rester dans la loi. » Le pauvre homme ne mangeait plus, ne dormait plus, vivait dans une affreuse et constante angoisse. Le moindre bruit, tant sa susceptibilité était exaspérée, lui causait des sursauts pénibles. Éveillé, il était la proie des cauchemars. Même en disant sa messe, en récitant son bréviaire, son imagination lui représentait des scènes atroces de martyrs, des cirques rouges, des bûchers. Pas une minute il ne pouvait chasser ces suppliciantes images, goûter un peu de calme repos. Il eût souhaité être malade, mourir. Comme il avait abandonné le reste, il finit par abandonner l'empereur. « Eh bien, soit, mais je vous en prie, ne prononçons pas son nom, n'écrivons pas l'empereur, ni l'empire, ni rien de semblable. » Mettons le potentat. Non. Le tyran. Non, non. Mettons on. On, cela dit tout, et cela ménage tout aussi. Cela peut s'appliquer à n'importe qui, et cependant personne ne s'y méprendra. Mon Dieu, que va-t-il nous arriver? Et le préfet? Et le ministre? Et le conseil d'État? Quel scandale! Nous nous ferons interdire, monsieur l'abbé. Nous nous ferons condamner à des peines honteuses. » Jules, gravement, répondait « Jésus a été crucifié, monseigneur. S'est-il plaint ?» Enfin, le mandement, un beau dimanche, éclata comme une bombe dans les paroisses. Quelques curés, mieux avisés que les autres, se refusèrent à en donner lecture. Ce fut de la stupéfaction, de la consternation, de l'indignation. On crut que l'évêque était devenu fou. Il y avait en cet étrange document de littérature ecclésiastique, rédigé tout entier de la main de Jules par phrases brèves, rapides, sifflantes, un accent de pamphlétaire si âpre, des attaques si directes contre les pouvoirs publics, et par-dessus tout cela, une telle revendication haineuse des droits de l'Église, un si ardent appel à la guerre religieuse, que les plus intolérants parmi les diocésains, sentant la cause impopulaire et peu soucieux de la défendre, se mirent à crier comme les autres et à demander justice. L'effervescence fut telle que le soir même, des groupes d'ouvriers, de gamins et de petits bourgeois, brandissant des drapeaux tricolores et chantant la chanson de la reine Hortense, vinrent hurler autour de l'évêché, dont ils brisèrent les vitres à coups de pierre. De province, l'affaire eut vite gagné Paris. De Paris, la France. En quelques jours, le mandement de l'abbé Jules avait pris les proportions d'un gros événement européen. Il mettait toutes les chancelleries en branle, tendait tous les regards vers Rome, mystérieuse et muette, déchaînait la presse. Et le pauvre évêque, si ennemi du bruit, occupait l'attention universelle. Dès la première minute de l'extraordinaire nouvelle, car les formalités légales de dépôt n'avaient pas été remplies, le préfet était parti pour Paris. Le ministre des cultes avait mandé l'évêque. entre la France et le Saint-Siège, c'était un échange fiévreux de correspondances, d'explications, de rapports, une allée et venue continuelle de courriers de cabinet. Et le Conseil d'État, solennellement, délibérait. Dans les cafés, dans les cercles, dans les salons, chacun commentait la grave question du jour. On surprenait, les soirs, des bouts de conversation entre les promeneurs sur les boulevards.
« C'est peut-être la guerre. »«
Il paraît que c'est un enragé, cet évêque-là. »« Et Rome ? Que dit Rome ?» Des feuilles sérieuses et bien renseignées établirent la filiation de l'évêque à des sociétés occultes, expliquèrent le fonctionnement du carbonarisme catholique, dont il était un des plus dangereux chefs, et qui menaçait la liberté des consciences et la paix du monde. Autour de son nom, de ses actes, se bâtirent les plus absurdes légendes. On fouilla dans sa vie privée avec acharnement. On rappela son procès à grand renfort de commentaires insultants. Et les journaux satiriques illustrés livrèrent à l'horreur des foules sa caricature, coiffée de la sombre cagoule de Torquemada. Aucune voix ne s'éleva en sa faveur. Il fut désavoué hautement, durement, par la presse cléricale. Et tandis que le vieux bonhomme, étourdi, affolé, tout seul, là-bas, dans une chambre d'hôtel, sentait son âme ployée, s'écraser sous le poids d'une souffrance infinie et d'une irréparable honte, Jules, exultant, triomphait. Il savourait avec une complète joie le résultat inespéré et prodigieux de sa mystification. Et fier de tout le bruit qu'il avait déchaîné, il agitait en l'air les feuillets du mandement comme autrefois, gamin, la bouteille d'huile de foie de morue de sa sœur Athalie. Et il dansait, et il criait. « Non, c'est une bonne farce ! Ah, c'est une bonne farce ! Et tralala, et tralala ! Mon Dieu que je m'amuse !» Après un mois d'absence, un soir, enfin, l'évêque, furtivement, rentra chez lui. Blâmé par le ministère, blâmé par Rome, il n'avait tenu de conserver son poste qu'à l'ingénuité de sa défense et aux accents touchants de son repentir. Il avait même dû écrire une lettre, rendue publique, où il regrettait ses erreurs, s'humiliait, demandait pardon. Quand il eut congédié le grand vicaire et le personnel de l'évêché, venu pour saluer son retour, il dit à Jules, simplement, d'une voix très douce, « Il faudra, monsieur l'abbé, que nous soyons plus sages à l'avenir. » Beaucoup plus sage, je l'ai promis. Mais quand il vit le vieillard si courbé, si amaigri, si méconnaissable, qui ne lui adressait aucun reproche, et dont les yeux semblaient porter vers lui la douceur triste d'une prière, l'abbé éprouva au cœur un serrement violent, et tout d'un coup il se jeta à ses pieds, sanglotant. « Pardon, c'est moi, monseigneur, moi !» « Allons, allons, mon cher enfant !» consola l'évêque, sur la joue pâle duquel roulaient deux grosses larmes. « Allons, c'est fini maintenant. Ne pleurez pas. C'est passé. » 6 mois s'écoulèrent. Il n'était plus question du mandement. L'évêché avait retrouvé son calme, et Jules semblait s'amender. L'opinion lui revenait, de jour en jour, plus favorable. Il avait obtenu un véritable succès, en prêchant le mois de Marie, avec un très grand charme de parole, une poésie d'amour mystique voilée de tendresses humaines qui lui avait conquis le cœur des femmes. Une transformation physique s'opérait en lui. Il se soignait davantage, perdait ses habitudes de prêtre bohème, portait des soutanes presque élégantes et des boucles d'argent à ses souliers plus fins. On commençait de le recevoir dans quelques châteaux d'alentour avec plaisir. Sous son apparence, rude encore, et sous ses gestes toujours cassants, il étonnait par la variété, par l'intérêt délicat et nouveau de ses conversations, coupées parfois d'une hardiesse de mots ou de pensées qui n'était pas pour déplaire même aux plus dévotes. Dans le hasard des lectures nombreuses, il avait appris énormément de choses, et des plus différentes. Et si ses connaissances, rapidement acquises, n'étaient point classées en son esprit avec méthode, il savait s'en servir adroitement, et les mettre, sans pédantisme, au ton d'une causerie familière. Sa laideur elle-même disparaissait. La maladresse de son long corps anguleux et dégingandé ne choquait plus autant. Ce qui le rendait autrefois ridicule lui constituait maintenant une sorte d'originalité, plutôt agréable et bien faite pour le distinguer de la lourde, de la massive banalité paysanne de ses confrères. Et plus tard, au milieu d'une épidémie de petites véroles qui décima un des faubourgs de la ville, il s'était montré brave et dévoué. Prodiguant son temps, les consolations de son ministère aux malades pauvres, ensevelissant les morts, il avait donné à la population consternée et prise de panique l'exemple d'un beau courage. Ses rapports avec l'évêque étaient aussi devenus excellents, bien que çà et là, troublés de petits nuages, vite dissipés. Depuis sa triste aventure, l'évêque avait beaucoup vieilli. Sa santé se faisait plus délicate, ses facultés baissaient. Quoiqu'il ne parlât jamais de cette affreuse histoire, on sentait qu'il en souffrait toujours, que la blessure en demeurait non guérie et saignante. Jules s'ingéniait à lui faire oublier ses mauvais souvenirs en flattant les douces manies du vieillard. Il avait même étudié la culture des géraniums et des pélargoniums afin d'en pouvoir causer avec lui. Tous les deux, ils disputaient sur les poètes latins. L'évêque soutenait Virgile, Jules défendait Lucrèce. « Mais c'est un athée, votre Lucrèce !» s'écriait l'évêque. « Et votre Virgile, qui croyait aux divinités carnavalesques de l'Olympe, à cet imbécile de Jupiter, à Junon ?»« Enfin, il croyait à quelque chose. Que voulez-vous? De son temps, il n'y avait pas d'autre dieu. Et puis, il n'y croyait pas tant que ça. Il avait deviné le christianisme. » Mais Lucrèce a tout vu, tout senti, tout exprimé de ce qui est la nature, de ce qui est l'âme humaine, et combien magnifiquement. Aujourd'hui encore, il nous domine. Tout découle de lui, système et poésie. Et plus nous allons, plus son œuvre lumineuse grandit et bouleverse. Sans lui, nous en serions encore à adorer Minerve et son casque, et cette brute de Vulcain. Et puis Virgile, ses beaux vers, ses beaux rythmes, il les a volés à Lucrèce. « Ne dites pas cela, mon cher enfant, » protestait le prélat. « Virgile est la source, croyez-moi, la source unique. C'est à lui qu'il nous faudra revenir, toujours, toujours. » « A-t-il seulement poussé ce cri de souffrance ?« Pacata posse omnia mente tueri. » Oh, pouvoir contempler toute chose d'une âme pacifiée. Sans Lucrèce, monseigneur, nous n'aurions ni Pascal, ni Victor Hugo. Victor Hugo, mon cher enfant, c'est un monstre! À la suite de ces causeries, l'évêque se sentait très heureux, et il disait à Jules, « Mon cher abbé, je n'ai que vous, aimez-moi toujours comme ça. » « Oui, oui, monseigneur, je vous ai causé tant de chagrin. »« mais non, c'est moi qui suis ainsi, c'est mon caractère. Enfin, je n'ai que vous. » Il s'en fallait que l'abbé fût toujours aussi calme qu'il paraissait l'être. Et bien que son désir du mal n'eût pas alors de but déterminé, ses mauvais instincts le harcelaient sans cesse, le poussaient à de vagues rechutes, et il était obligé de se livrer, contre eux, à de rudes combats. Pourtant, quelque chose le soutenait, qui lui avait fait défaut jusqu'ici. Un intérêt, une ambition. Que de temps gaspillé à de criminelles et inutiles fantaisies! Que de forces perdues dans de stériles caprices, où il s'étonnait que n'eût point sombré tout son avenir! Maintenant, il entrevoyait une vie nouvelle, qui pouvait être brillante et féconde. au lieu de traîner éternellement des soutanes graisseuses dans les petits métiers de la basse cléricature, il lui était permis encore d'élever ses rêves plus haut. Il se savait éloquent, et d'une éloquence qui plaisait, car elle allait plus à la sensibilité qu'au raisonnement. Il savait aussi que malgré sa disgrâce physique, qu'on oubliait devant le charme réel et très vif de ses agréments intellectuels, il ne lui était pas interdit d'espérer des succès dans le monde et d'intéresser les femmes à son ambition. De tout cela, il avait eu la perception très nette, le jour où ses prédications lui avaient valu des sympathies non équivoques, et changé brusquement son méprisable état de paria en une condition enviée de prêtre à la mode. Mais sa nature l'effrayait. Il sentait gronder et bouillonner au fond d'elle des laves terribles, et il en redoutait l'explosion fatale et prochaine. Il subissait tellement l'attraction du mal que souvent, à la minute où il raisonnait avec le plus de clairvoyance sur la folie des inconséquences de son passé, il avait envie de s'y abandonner. Une force invincible l'entraînait, qui lui donnait le vertige de l'abîme. Et il comprenait qu'un jour, il s'y laisserait glisser d'un coup, comme ça, pour rien. Depuis qu'il était en contact plus fréquent avec les femmes, son esprit redevenait l'esclave de la chair. Il échappa d'abord aux tentations par le travail obstiné, par un âpre surmenage du cerveau. Mais le travail bientôt ne suffit plus. L'immobilité pesante le condamnait à la défaite. L'amour ne se présentait à lui que sous la forme d'une débauche compliquée et pénible. Des images impures, impossibles à chasser, dansaient devant ses yeux, l'arrachaient au livre, à la pensée, pour le plonger dans une suite de rêves obscènes où il trouvait d'involontaires assouvissements et d'où il sortait, hébété, le cœur plein de dégoût. La prière non plus ne le calma point. Agenouillé au pied du crucifix, il voyait peu à peu, comme en un tableau célèbre, le corps du Christ osciller sur ses clous sanglants, quitter la croix, se pencher, tomber dans le vide, et à la place du Dieu disparu, la femme triomphante et toute nue, la prostituée éternelle qui offrait sa bouche, son sexe, tendait tout son corps au baiser infâme. Alors, pour étouffer le monstre, il reprit ses courses furieuses à travers la campagne. Il tenta de dompter, à force de fatigue physique, la révolte charnelle de ses sens déchaînés. Toutes ses luttes intérieures, tous ces drames d'une âme en détresse, Jules, avec une volonté qui ne manquait pas d'héroïsme, les comprima silencieusement au fond de son être moral. Et personne autour de lui n'en ressentit le contre-coup. C'est même au plus fort de ses affres, c'est au plus douloureux de ses tentations, que, par une ironie pitoyable qui donne à la vertu la nostalgie du vice, au vice la nostalgie de la vertu, il éprouva une intense et presque enivrante joie à chanter en ses sermons l'hymne des voluptés impossédées, l'ineffable douceur de l'amour mystique, de l'amour introublé d'un rêve de la terre pour un rêve du ciel. Tous les ans, on célébrait la fête de l'évêque par des exercices pieux, des réjouissances littéraires et un supplément de chocolat au repas du matin, dans les petits et grands séminaires. Après la messe, solennellement chantée en musique, les élèves venaient complimenter Monseigneur, ceux-ci en vers latin, ceux-là en vers français, quelques-uns, les plus forts, en vers grec, et se livraient ensuite à une joute académique, où ils élucidaient un point obscur de l'histoire religieuse, ou bien fixaient un dogme attaqué par les philosophes. Et la musique jouait des marches dans l'intervalle des discours. À cette occasion, le prélat donnait un dîner auquel étaient conviées les principales autorités ecclésiastiques, le meilleur élève de chaque classe et quelques amis laïcs. Comme d'habitude, Jules fut chargé d'organiser la fête, laquelle d'ailleurs ne variait jamais. Ce jour-là, il était nerveux, plus agité que de coutume. Il avait eu le matin à propos de la décoration du maître-autel, une dispute avec le grand vicaire qui l'avait irrité. Cela l'amena à observer que, depuis la réserve de sa conduite et ses succès du mois de Marie, le grand vicaire semblait le prendre de plus haut avec lui et ne dissimulait plus son hostilité. Cependant, les choses allèrent à merveille. L'évêque subit consciencieusement l'averse des louanges polyglottes et y répondit de son mieux. Au dîner, l'abbé remarqua que le grand vicaire avait à plusieurs reprises, en le regardant de ses yeux obliques, ricané avec son voisin, un gros curé dont le nez trop court disparaissait dans la bouffissure des joues. « Sans doute il se moque de moi, cette canaille-là, » se dit-il. Ce ricanement l'exaspérait. Du reste, tout autour de lui l'exaspérait. Il éprouvait un insurmontable dégoût à se trouver en ce milieu qui ne lui avait jamais paru aussi répugnant. Ces lourdes et vulgaires faces de prêtre, aperçues entre la rangée des candélabres et des corbeilles de fleurs, les contentements hideux de ses ventres, ces profils maigres des séminaristes déjà verdis de fiel, balançant sur de longs coups d'oiseaux des airs candides que démentaient des mâchoires du carnassier et des yeux fuyants de bêtes de proie. Ce que cela dégageait pour Jules de gaieté grossière, de cynique insouciance, d'égoïsme féroce, d'appétit vil, d'ignorance abjecte et de basse intellectualité. Ces deux curés près de lui, qui se contaient à voix basse en retenant leur rire baveux de sauce, de puantes histoires scatologiques, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait le mettait hors de lui, et il avait des envies furieuses de se lever, de lancer sa soutane à la tête de tous ces gens. L'usage voulait qu'au dessert, le grand vicaire, parlant au nom des diocésains, adressa une petite allocution à l'évêque. Il était sentimental et prétentieux, ne ménageait pas l'éloge et savait pleurer aux endroits convenables. Le moment venu, il quitta sa chaise, se tamponna les lèvres avec son mouchoir, toussa trois fois ainsi qu'il faut faire. Et les convives, attentifs, tournèrent vers lui leurs regards luisants. Il commença dans un silence auguste. « Monseigneur, dans ce jour béni entre tous, où les enfants de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, ces enfants que vous guidez avec une si paternelle sollicitude, avec un dévouement si admirable, dans les voies sacrées de la religion, dont Bossuet a pu dire... » Mais il fut soudainement interrompu. L'abbé s'était dressé, debout, le corps penché au-dessus de la table et tendant son poing vers le grand vicaire. « Mais taisez-vous » cria-t-il. « Pourquoi parlez-vous? De quel droit? Au nom de qui ?» Le grand vicaire resta pétrifié dans la pose qu'il avait prise et dans le geste commencé. L'évêque, très pâle, s'affaissa sur son siège. Un des assistants, s'étant violemment retourné, fit choir une bouteille de vin qui se brisa sur le parquet. Et tous tordaient leur menton grimaçant vers l'abbé, qui, d'une voix vibrante, répéta « Mais taisez-vous! Que parlez-vous de religion, d'église? Vous n'êtes rien! 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 Vous êtes le mensonge, la convoitise, la haine! Taisez-vous! Vous mentez !» Au milieu d'un silence profond que ne troublait pas un souffle, de ce silence de mort qui succède au cataclysme, l'abbé continua. « Vous mentez tous! Depuis une heure je vous regarde, et à le voir porté par vous, je rougis de l'habit que je porte, moi. Moi qui suis un prêtre infâme, qui est volé et qui vaut mieux que vous pourtant. Je vous connais, allez, prêtres indignes, réfractaires au devoir social, déserteurs de la patrie, qui n'êtes ici que parce que vous vous sentiez trop bête ou trop lâche pour être des hommes, pour accepter les sacrifices de la vie des petits. Et c'est vous à qui les âmes sont confiées, qui devez les pétrir, les façonner, vous dont les mains sont encore mal essuyées de l'ordure de vos étables. Des âmes de femmes, des âmes d'enfants, à vous qui n'avez jamais conduit que des cochons. Et c'est vous qui représentez le christianisme, avec vos mufles de bête à l'engrais. Vous qui ne pouvez rien comprendre à son œuvre sublime de rédemption humaine, ni à sa grande mission d'amour. Cela fait rire, et cela fait pleurer aussi. Une âme naît, et c'est 10 francs. Une âme meurt, et c'est 10 francs encore. Et le Christ n'est mort que pour vous permettre, n'est-ce pas, de creuser la fente d'une tirelire dans le mystère de son tabernacle, et de changer le ciboire en sébile de mendiant. Mais quand je vous entends parler de la Vierge, il me semble que j'assiste au viol d'une jeune fille par un bouc. » De sourdes rumeurs s'enflant peu à peu, devenues bientôt des cris de colère, des protestations furieuses, des vociférations indignées, couvrirent sa voix. Beaucoup étaient debout, la face congestionnée, qui brandissaient en l'air des serviettes, des couteaux, et gesticulaient tumultueusement. Par-delà la clameur grandissante, on entendait des bruits clairs d'argenterie, de vaisselle remuée. Le parquet craquait, et sur les murs ébranlés, les faïences résonnaient, secouées au bout de leurs attaches. Jules se débattait, écumait, hurlait dans le vacarme, en projetant l'un après l'autre, d'un mouvement alternatif, ses deux poings crispés. « Allez-vous-en ! Retournez au purin, au crottin ! Je vous chasse ! Je vous chasse !» Alors l'évêque, plus pâle qu'un cadavre, fit signe qu'il voulait parler, et le silence se rétablit instantanément. Ses lèvres tremblaient, exsangues, il claquait des dents. Et d'une voix si faible qu'à peine on l'entendit, d'une voix entrecoupée d'efforts douloureux comme celle d'un agonisant, il dit « Monsieur l'abbé, c'est moi qui vous chasse. Vous avez… Vous ?» cria Jules, dans les yeux duquel passa la lueur d'une folie sanglante. « Vous ?» Il faisait geste de rudoyer un personnage imaginaire. « Vous ? Vous n'avez pas le droit, vous. Vous avez volé le testament. Une mitre à vous ? Ce qu'il vous faut, le savez-vous ? 4 pieds de chêne et un boulet. » L'évêque poussa un cri, ouvrit la bouche, et battant l'air de ses mains glacées, il retomba sur son siège, la tête roulante, les bras inertes, évanoui. Le lendemain, à pointe d'aube, Jules sortit. Il avait préparé ses malles et comptait partir le soir même. Mais où, il n'en savait rien. Dans le malheur, c'est vers la maison paternelle que vont les premiers regards de celui qui cherche à être consolé. Jules n'aimait point son pays. Aucun doux souvenir ne l'y attachait, aucune joie de jeunesse. L'idée de retourner à Vianney lui était insupportable. Il faudrait y donner des explications, subir des reproches, ne voir que des visages tristes ou courroucés, n'entendre que des soupirs et des lamentations. Cela ne le tentait point. Il eût désiré se cacher quelque part, très loin, dans un endroit où personne ne l'aurait connu. Paris aussi l'attirait par son mystère, par toutes les espérances vagues de crimes ou de relèvements qu'il souffle aux obscurs déclassés. Il n'avait point d'argent. Et d'ailleurs, qu'y ferait-il? Enfin, il verrait, il réfléchirait. En attendant d'avoir pris une résolution, il ne voulait pas rester à l'évêché, dans la crainte d'y rencontrer Monseigneur ou quelque autre témoin de sa stupide aventure. Et il allait, préoccupé, mal à l'aise, incertain, chassant devant lui des cailloux du bout de ses souliers. Comme il se trouvait sur la route du Rhéno, la pensée lui vint de passer cette journée avec le père Pamphile. De sa visite ancienne, il lui était resté un grand remords, une grande impression, et bien des fois, il s'était promis de revoir ce dément sublime et de se réconcilier avec lui. Mais une folie lui traversa la cervelle. Pourquoi ne vivrait-il pas au Rhéno? Ne s'arrangerait-il pas avec le vieux Trinitaire? Il creuserait des trous, remuerait des arbres, quêterait. Non, c'était absurde. Se défroquer? Quelle misère! La tare demeurait ineffaçable sur les épaules de l'homme, habitué à porter la soutane. Du mépris, de la suspicion, voilà ce qu'il attendrait partout. Alors, il chercha. Un poste sacrifié dans une mission lointaine? Voudrait-on de lui seulement? Le couvent? On ne l'y recevrait point. Il chercha encore, ne trouva rien, se sentit perdu. Et il eut peur, inquiet comme une bête que les chiens poursuivent. Il marchait le dos courbé, l'oreille aux écoutes, la mort dans l'âme. Le matin, vêtu d'azur limpide, souriait dans les arbres réveillés, et des vapeurs parfumées montaient de la terre, toutes frissonnantes sous les baisers du jeune soleil. À quelques pas de l'avenue, Jules rencontra une vieille femme, celle qu'il avait vue déjà, portant au moine sa bolée de soupe. Comme autrefois, il lui demanda « Le père Pamphile est-il au couvent ?»« V'là quasiment plus de 15 jours, à nuit, que je l'ont vu, monsieur le curé, » répondit la vieille. « Un jour, il était corps, et puis le lendemain, il n'y était plus. »« Ah ? Il sera bien sûr reparti en quelque pays. Il est si enragé. » Ce départ causa à Jules une véritable déception. Il hésita pour savoir s'il devait poursuivre son chemin ou revenir en arrière. « Bah !» se dit-il, « passer ma journée là ou bien ailleurs. » Et il s'engagea dans les ronciers de l'avenue. Longtemps, il erra à travers les ruines. L'hiver qui venait de s'écouler avait été rude au pauvre Reynaud. Les dégels et les tempêtes y avaient accumulé de nouveaux et nombreux dégâts. L'abbé revit ce qu'il avait vu jadis. Tout cela un peu plus affaissé, tout cela un peu plus tombé, tout cela un peu plus désolé. Et la vue de ces édifices découronnés, de ces murailles penchées et branlantes, de ces choses dévastées, mortes, éparses dans le chaos des successifs écroulements et des continuelles chutes, lui fut d'une tristesse amère et poignante. Il retrouvait, en tout cela qui était à jamais détruit, l'image de son propre cœur, le symbole de sa propre vie. Il revit le trou qu'avait creusé le père Pamphile et qu'un glissement du terrain comblait presque aujourd'hui. Un autre plus loin s'ouvrait de la longueur d'un homme, étroit et profond comme une fosse de cimetière. Et il pensa qu'il ferait bon s'allonger là, se recouvrir de nuit et dormir. La pioche était piquée dans le sol, au bord du trou. La pioche, illusoire et grossier instrument des rêves du moine. Jules la souleva, la pesa, la regarda avec attendrissement. Le fer en était ébréché, le manche tordu, et pourtant elle lui parut plus resplendissante que l'épée des conquérants. Cette misérable pioche, qui jamais n'avait fouillé que des nuées. Et longtemps encore, il marcha, au milieu de cette désolation infinie, en proie à des rêves funèbres qui achevèrent de navrer son âme. Tout lui parlait de la mort. Il la voyait s'accroupir derrière chaque bloc de pierre, s'embusquer derrière chaque crevasse, plongée dans l'ombre des fenêtres, béante, ainsi que des abîmes. Et sur les vieux murs, encore debout, les lichens et les mousses dessinaient sa forme d'effrayant squelette. Pour échapper à l'obsession, il évoquait la barbe du Trinitaire, ses yeux si terriblement beaux quand il s'écriait « Je la bâtirai !» Si doucement naïf quand il contait l'histoire de la Marseillaise. La Marseillaise, se disait Jules avec pitié. Pauvre vieux bonhomme! Il regrettait qu'il ne fût point là, en cette si mélancolique journée. Assis à côté de lui, il eût partagé son pain noir, écouté ses enthousiasmes, et cela lui eût fait du bien. Mais le vieillard rôdait sur quelque route lointaine, sans doute, à la poursuite de sa chimère. Comme il se sentait la tête lourde, l'estomac brisé, que ses membres là réclamaient un peu de repos, il s'assit sur une poutre abattue, non loin du pavillon qu'habitait le père Pamphile, et il continua de rêver. En face de lui était un tas de gravats éboulés récemment, car les fragments de briques qui les parsemaient montraient à leur cassure un rouge plus vif et brillant. Des solives écrasées, des planches rompues, dardaient entre les moellons, les briques et les pierres, de longues pointes échardées. Jules ne prêta d'abord à ces débris d'autre attention que celle, très attristée d'ailleurs, qu'il accordait à tous les débris de ce genre, dont les cours du couvent étaient pleines. Et malgré ses désirs de mort, jugeant l'endroit dangereux, il allait chercher un refuge loin des bâtiments. Mais bientôt, il remarqua, dépassant les gravats d'une vingtaine de centimètres, un sabot. Et ce sabot se dressait en l'air, immobile au bout d'une chose ronde, noire, gonflée, luisante d'exsudation verdâtre. Autour du sabot voletaient des mouches, des myriades de mouches, dont le ronflement sonore remplit les oreilles de l'abbé d'un bruit d'orgue, monotone et prolongé. En même temps, une puanteur lui arriva aux narines, la puanteur âcre et fade qui s'exhale des chairs corrompues et des bêtes crevées. « Mais c'est le père Pamphile ! » s'écria-t-il. Et se relevant d'un bond, il appela comme si quelqu'un pouvait l'entendre en cette solitude morne. « Au secours ! Au secours ! Par ici ! Au secours !» Puis il se tut, très découragé. Du reste, aucune voix ne répondait aux cris de détresse, et le silence se fit. La première surprise de l'horreur passée, l'abbé réfléchit que le secours qu'il demandait était bien inutile. Le malheur datait de 15 jours au moins, du jour où l'on n'avait pas revu le vieux moine, qu'on croyait reparti et qui était mort, tué par ses ruines aimées. Tout frissonnant, il s'approcha de l'amoncellement des pierres, les yeux fascinés par le sabot, au-dessus duquel les mouches bourdonnaient, et dont la rigidité lui glaçait le cœur d'une intraduisible épouvante. C'était bien le père Pamphile. Dans l'interstice des gravats, Jules avait aperçu des pans de robe blanche, maculés de sang noir. « Allons, pensa-t-il, c'est Dieu qui m'a conduit ici. Un autre l'eût sans doute découvert. Des gens de justice, des gens d'église, ravisseurs de cadavres, seraient venus le prendre. » Et parlant tout haut, il dit « Sois tranquille, pauvre vieille carcasse. Aucun ne t'arrachera à la paix de ces lieux que tu chérissais. Tu dormiras dans ton rêve, doux rêveur. Tu dormiras dans cette chapelle que tu voulais si impossiblement magnifique et dont tu auras pu faire au moins ta sépulture. Et personne ne saura plus rien de toi, jamais, jamais, charogne sublime. » Résolument, il retroussa ses manches, se pencha au-dessus des décombres, et il commença de les déblayer. Les mouches autour de lui tourbillonnaient. L'odeur de pourriture montait à chaque minute plus suffocante. Mais l'abbé ne voyait pas les mouches aux piqûres mortelles. Il ne sentait plus l'infecte odeur. Pas un instant, il n'interrompit la funèbre besogne. Il arrachait parfois des lambeaux de peau écharnée qui s'agglutinaient aux éclats de bois, se poissaient aux morceaux de briques. Parfois, il retirait des bouts de drap sanguinolents, des poignées de barbe et des tronçons de muscles filamenteux et décomposés. Enfin, ce qui avait été le père Pamphile apparut. Reste horrible, où ne se reconnaissait même plus la place des membres ni la forme du squelette. Amas de chair, d'os, d'étoffes broyées pêle-mêle, boue gluante de sanie jaune et de sang noirâtre, boue mouvante que des millions de vers gonflaient d'une monstrueuse vie. De la face écrasée entre un quartier du crâne et la bosse d'une pommette, il ne demeurait d'intact que la ronde cavité de l'œil, dont la prunelle liquéfiée coulait en purulentes larmes. Alors Jules s'arrêta, indécis, la sueur au front. 100 mètres le séparaient du trou près de l'église, du trou qu'il avait choisi pour inhumer le père Pamphile. Il ne pouvait transporter dans ses bras ses restes mous et désagrégés. Son courage n'allait pas jusqu'à serrer contre sa poitrine ces immondes débris d'un homme. Il chercha une brouette, un panier, quelque chose qui l'aida à véhiculer le cadavre vers la fosse. N'en trouvant pas, il dénoua sa ceinture, l'enroula autour du corps, comme les bandelettes, une momie. Ainsi maintenu, il se mit à le traîner doucement, évitant avec précaution les heurts trop durs et les brusques ressauts sur les inégalités du terrain. Les mouches le poursuivaient de leur vol assourdissant, et le sabot, au haut de la jambe raidie, vibrait. La cérémonie ne fut pas longue. Jules descendit le cadavre dans la fosse qu'il combla de terre jusqu'au niveau du sol. Quand ce fut fini, « Je te devais bien cela, » dit-il, « doux conquérant d'étoiles, naïf tisseur des fumées. Dors et rêve. Maintenant le rêve est sans fin. Aucun ne t'en réveillera. Tu es heureux. » Il prit la pioche, qu'il orna d'une couronne de ronces, et l'enfonçant par le manche au milieu de la tombe, il la planta debout comme une croix. Puis il se laissa glisser à terre, presque défaillant. Mais une révolte soudaine le fit bientôt se relever, la bouche crispée, le regard mauvais. Et tandis que son regard allait du carré de terre au fond duquel gisait le père Pamphile, à l'emplacement de l'église parsemée de ronces et couvert de poussière, il songea. « Ainsi, c'est donc ça l'idéal ? L'amour ? Le sacrifice ? La souffrance ? Dieu ? Tout ce vers quoi nous tendons les bras ? Tout ce vers quoi s'élancent nos âmes ? C'est ça ? Un peu de poussière, de la boue et des ronces. Et c'est avec ça qu'on nous abrutit, dès la petite enfance, qu'on nous arrache à la vie de vérité, qui est la haine et la lutte sans merci, qu'on nous fait la proie du rêve féroce et de l'insatiable amour. Ce misérable moine, il a eu le rêve, il a eu l'amour, et l'amour et le rêve, après l'avoir dégradé, avili, sali de toutes les hontes, le tue ignoblement. Le voilà maintenant, une charogne puante dans un tas de boue. Sur quelle déformation de la nature reposent donc les religions et les sociétés, ces mensonges? De quelle fiction sont donc sortis le juge et le prêtre, ces deux monstruosités morales? Le juge qui veut imposer à la nature on ne sait quelle irréelle justice, démentie par la fatalité des instincts. Le prêtre, on ne sait quelle pitié baroque devant la loi éternelle du meurtre. La nature, ce n'est pas de rêver, c'est de vivre. Et la vie, ce n'est pas d'aimer, c'est de prendre. L'idéal, l'idéal. Ils avaient raison, ces gros porcs que j'insultais hier. Et moi, j'avais tort. L'abbé haussa les épaules. « L'idéal, reprit-il tout haut. Attends, attends, je vais t'en donner de l'idéal. » Il reboutonna ses manches, secoua sa soutane, et sifflant l'air d'une chanson obscène de sa jeunesse, il partit, sans donner un dernier regard au petit coin de terre où il venait pieusement d'ensevelir le père Pamphile. Jules ne voulut point rentrer dans la ville avant la fin du jour. Il s'imaginait que tout le monde connaissait le scandale de la veille, le commentait, et il lui déplaisait de s'offrir aux curiosités cancanières qui ne manqueraient point d'accompagner son passage dans les rues. Attendant impatiemment la tombée de la nuit, il rôda dans les chemins d'alentour, descendit jusqu'à la rivière, et tout vague, un peu hébété, il resta longtemps sous un saule à regarder tourner la roue d'un moulin à temps. La faim, les incertitudes, l'angoisse d'un avenir très sombre avaient ramené son esprit vers des spéculations moins philosophiques et plus terre à terre. D'abord, il remit au lendemain le départ qu'il avait, avec trop de précipitation, fixé au soir même. Quoi qu'il pût advenir de lui plus tard, il ne pouvait quitter l'évêché sans prendre congé de l'évêque, sans manifester un regret, un repentir. Mais où irait-il? En admettant que sa faute pût s'oublier quelques jours, il prévoyait de longs mois, des années peut-être, à passer en état de pénitence, éloigné de toute fonction. De plus, il était bien décidé à refuser un exil possible dans la vie qui rit d'un petit village. Et ce mot de vie qui rit, lui rappelant le grand vicaire, il sentit la haine lui mordre le cœur. « C'est à cette canaille-là que je dois tout ce qui m'arrive, » se dit-il. « Il m'a agacé, et alors je me suis encore emballé. Canaille ! Canaille !» En ce moment, il n'en voulait plus à la société, à la religion, à l'idéal, ni à personne. Il n'en voulait qu'au grand vicaire, cause de son malheur. Et il rêva de vengeance terrible, raffinée. Les impressions les plus différentes naissaient, se succédaient, allaient d'un pôle de sa sensibilité à l'autre, se heurtant. Il pensait à ses sermons du mois de Marie, à l'accueil flatteur qu'il recevait dans le monde. Il se rappelait la foule charmée, domptée par sa parole. Puis une question se dressait, grosse de perplexité. Non, pas à Vientey. Mais où ? Nulle part je n'ai d'amis. À se savoir si seul, son cœur s'enflait, trop plein de tristesse. Et il revenait au grand vicaire, il l'injuriait. Canaille ! Ah, la sale canaille ! Brusquement, avec un soupir, ce pauvre bougre d'évêque ! Eh bien, il va être heureux avec une sale canaille comme ça ! Presque content, est-ce curieux que je ne puisse rien dire, ni rien faire, sans qu'une catastrophe ne s'ensuive ? C'est vrai pourtant, je souffle dans un chalumeau et c'est les trompettes de Jéricho qui résonnent. Je n'ai qu'à cracher dans cette rivière et je suis sûr qu'elle va déborder. De l'endroit où il était placé, par une échappée entre les peupliers de la vallée, il aperçut un coin de la ville, des maisons grimpant les unes sur les autres, un fouillis d'ombres bleues et de taches claires, barré de fumée rousse, enveloppé de la brume légère du soir qui commençait. Il chercha des yeux le palais épiscopal, la terrasse où il ne rôderait plus aux heures du crépuscule. Un énorme bouquet d'aunes les masquait. Mais la tour de la cathédrale dominait la ville, plantait dans le ciel, couleur de pâle violette, sa masse carrée et toute sombre. Cette vision du pays qu'il allait quitter, chassé comme un mauvais serviteur, l'attendrit et le révolta tout ensemble. Moitié pleurant, moitié bougonnant, il abandonna son saule. « Vientey ! Vientey ! » pensait-il. « J'y crèverai d'ennui ! C'est impossible ! Mais où ?» Tandis qu'il remontait vers la ville, le jour décrut, la nuit tomba. Évitant les rues trop larges, trop éclairées, il s'engagea par les venelles tortueuses d'un sale faubourg. Des murs noirs, faisant coude brusquement, des chaussées étroites coupées dans leur longueur par un ruisseau charriant des ordures, où de place en place stagnait le reflet d'un réverbère. À mesure qu'il avançait, Jules était de plus en plus angoissé, incertain s'il devait poursuivre sa route ou bien s'enfuir. Il songeait « Revoir l'évêque ? Ça va être encore des embêtements !» Des ouvriers rentraient avec des bruits sourds de sabots. Des femmes le frôlaient de leurs jupes. Peu à peu, les murs se trouaient de lumière. Et tout à coup, à sa gauche, au-dessus d'une porte mi-ouverte, une lanterne, portant sur ses verres dépolis, un énorme huit s'alluma. Et dans l'ombre de la porte, il vit une femme, grosse, dépeignée, en camisole blanche. Il ralentit sa marche et se dit « Si j'entrais, si je passais la nuit là, si demain en plein jour devant tous, je ressortais de ce bouge ignoble, si je creusais d'un coup cet abîme entre ma vie d'hier et ma vie de demain, si… » Un « pst » parti de la porte lui cingla les reins comme d'un coup de fouet. Il tressaillit et, courbant le dos, il passa. « Monseigneur a fait demander monsieur l'abbé toute la journée, » dit le portier d'un air digne lorsque Jules pénétra dans la cour de l'évêché. « Monseigneur attend monsieur l'abbé dans son cabinet. Je suis chargé de dire à monsieur l'abbé… »« C'est bien. interrompit Jules d'un ton bref. Il gagna sa chambre, se trempa la figure dans l'eau, changea de soutane et se présenta chez l'évêque. Celui-ci, en effet, l'attendait. « J'ai craint que vous ne fussiez parti, » dit-il, et désignant un siège, « Asseyez-vous, monsieur l'abbé. » Le vieux prélat n'était ni solennel ni colère. Il semblait plutôt embarrassé. Après s'être retourné plusieurs fois sur son siège, il prononça d'une voix douce, « Monsieur l'abbé, je ne veux pas de scandale dans mon diocèse. Je n'en veux pas, et l'on m'a promis qu'il n'y en aurait pas. On me l'a promis formellement. De votre côté... » Il croisa ses bras sur les accoudoirs du fauteuil, branla la tête. « De votre côté, » reprit-il, « vous comprendrez que vous ne devez point, que vous ne pouvez point rester ici après l'événement. »« Monseigneur, » balbutia Jules, profondément remué, « ça a été un moment de folie, de... » Il cherchait ses mots et ne les trouvait point. Devant ce pauvre vieux bonhomme si faible, si incapable de se défendre, si lâchement et tant de fois martyrisé par lui, Jules éprouvait une indéfinissable sensation de stupeur, de remords aigus et d'accablante pitié. L'évêque lui faisait l'effet d'un tout petit oiseau, d'un tout petit roitelet qui serait venu, confiant, se poser sur son épaule et qui l'aurait pris dans ses mains et qui l'aurait, lentement, étouffé. L'évêque poursuivit avec effort. Nous avons une cure vacante, la cure de Randonnet. C'est une bonne cure. J'ai pensé à vous la réserver, car je ne veux pas de scandale. Il y aura peut-être des difficultés, mais je m'arrangerai. Retournez chez votre mère. Je lui ai écrit que vous aviez besoin de repos. Elle vous attend. Faites une pieuse retraite et priez, priez beaucoup, monsieur l'abbé. Priez énormément. » Jules défaillait sous l'émotion. Il aurait voulu exprimer ce qu'il ressentait d'infiniment doux et d'infiniment cruel aussi. Il ne le pouvait pas. Quelque chose d'inconnu encore paralysait son cerveau, son cœur, sa langue, et, devenu stupide, il continuait de bégayer. « Monseigneur, ça a été un moment de folie !» De folie! Moi aussi, je prierai pour vous, monsieur l'abbé, fit l'évêque dont la voix s'altéra. Et se levant, adieu, remontez dans votre chambre. J'ai donné l'ordre qu'on vous y serve à dîner. Le soir, dans son lit, Jules, qui ne pouvait s'endormir, songeait, en pensant au père Pamphile et à l'évêque, sont-ce des saints? Sont-ce des imbéciles? Comment se peut-il qu'il y ait des âmes comme ça? Cela m'épouvante. 2 mois après, Jules était nommé curé de Randonnet. Il arriva, un samedi matin, très maussade, juste à temps pour enterrer le notaire du pays. L'enterrement fut magnifique et de première classe. Cela dérida un peu le nouveau curé, qui, en balançant l'aspergeoire autour du catafalque, se dit « Je débute bien, pourvu que cela continue. » L'église lui parut misérable, triste et sombre, avec sa voûte basse, écrasée, et ses massifs piliers qui supportaient des arcs d'un dessin vulgaire. « Une vraie caverne » pensa-t-il. « Le bon Dieu doit joliment s'embêter là-dedans. » Puis, il examina les prêtres, venus des paroisses voisines, pour assister à la cérémonie. Lesquels l'examinaient aussi, d'un coup d'œil furtif, sournoisement glissé derrière le psautier. Et il pensa, en réprimant une grimace, et en couvrant d'encens et de prières le défunt, « Et c'est avec ça qu'il faudra que je vive. Ça va être gai. Où donc ai-je vu toutes ces vilaines faces ?» Il en remarqua un aux cheveux luisants de pommade, dont la figure grassouillette et très rose lui semblait particulièrement connue. « Parbleu !» se rappela-t-il. « Je crois bien, c'est le lapin du séminaire !» au cimetière, tandis qu'il chantonnait des versets latins, il aperçut près de la fosse une botte de paille. S'interrompant tout à coup, « Qu'est-ce cela ? » demanda-t-il derrière lui à un gros chantre, à face bourgeonnée d'ivrogne et qui puait le vin. Et le chantre, d'une voix grasse, « C'est de la paille, monsieur le curé !»« Je le vois bien que c'est de la paille. Et pourquoi cette paille ?»« C'est censément par égard pour les parents. On la met sur le cercueil, et ça fait que ça empêche le bruit de la terre qui tombe dessus. »« Enlevez cette paille !» commanda le curé. « Je ne veux pas de cette paille ici. »« Mais toutes les femmes en veulent, monsieur le curé. C'est l'habitude. » « On en changera. Enlevez cette paille, je vous dis. Et vous, je vous engage à ne vous saouler dorénavant qu'après les offices. » Et il reprit les versets latins, sans faire attention aux chuchotements, aux murmures qui s'éparpillèrent dans la foule. Le lendemain, à la première messe, montant en chaire, il s'expliqua ainsi devant ses paroissiens. « Mes frères, en arrivant hier parmi vous, j'ai constaté avec tristesse que vous aviez des habitudes déplorables, auxquelles je vous prie, et je vous ordonne, au besoin, de renoncer, car je vous avertis que je ne les tolérerai pas. Que signifie cette paille étalée sur les cercueils? La mort est un mystère auguste que je veux qu'on respecte, par-dessus tous les autres. Est-ce donc la respecter que de lui donner une honteuse litière, comme à vos bestiaux? On me dit que c'est par égard pour les vivants et pour leur épargner le bruit que font les pelletées de terre jetées sur les planches nues des cercueils. Lâche cœur, qui ne savait pas même pleurer et qui repoussait la souffrance que Dieu vous donne. Eh bien, moi, je veux qu'on ait de l'égard pour les morts. Je veux qu'un étranger qui assisterait par hasard à des obsèques dans ma paroisse ne puisse pas se dire, en voyant apporter de la paille sur les fosses, « Quel est donc le cochon qu'on va griller là ?» Puis, se signant d'un geste large et bredouillant, « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Il commença de réciter le prône et paraphrasa l'évangile du jour. Longtemps, dans le pays de Randonnet, on parla de ce début oratoire du nouveau curé, qui fit une profonde impression sur les âmes. Le presbytère était situé à l'extrémité du bourg. Protégé contre l'espionnage des habitations voisines par une épaisse charmille et quelques hauts sapins, il n'avait devant lui que l'espace libre des champs vallonnés. Il plut à Jules à cause de son isolement et de son silence. La maison était propre, gaie, nouvellement recrépie à blanc, avec des volets verts, et un petit perron à double escalier que décorait la fantaisie luxuriante des glycines emmêlées. Le perron descendait au jardin, très vaste, bien percé d'allées sablées, qui toutes aboutissaient autour d'une sorte de rond-point, occupé en son milieu par une statue de la Vierge, à l'abri sous un laurier sauce. Un courtil, planté de pommiers, attenait au jardin. Rien ne manquait pour rendre le séjour agréable. Ni les communs bien aménagés, ni la basse-cour parfaitement disposée pour l'élève des volailles et des lapins. Jules n'avait pas non plus à subir de côte à côte, souvent gênant avec son vicaire. Celui-ci habitait un petit pavillon à l'entrée des communs et très discret, ne se montrait qu'aux heures des repas. Pourtant, ses visites terminées, il s'ennuya. Partout où il s'était présenté, il avait reçu un très froid accueil qu'il attribua à la fâcheuse aventure de l'évêché, sans réfléchir que son premier sermon suffisait à justifier l'attitude gourmée de ses paroissiens. Il ne s'en émut pas d'ailleurs. « Eux chez moi, moi chez moi, j'aime mieux ça. » Et ce fut tout. Loin de trouver un apaisement en cette calme retraite où nul bruit n'arrivait, ses nerfs se tendirent plus encore, au point qu'à la maladie morale vint s'ajouter une réelle souffrance physique. Il ne dormait plus. Une exaspération de tous ses membres le jetait hors de lui, et il passait ses nuits à marcher dans sa chambre, le cœur gonflé d'il ne savait quelle noire tristesse. Cela inquiéta vivement sa mère. Madame Dervelle était venue à Randonnet pour y installer son fils. Elle avait mis à l'arrangement du presbytère toute son adresse de maîtresse de maison, économe et délicate, soigneuse des plus menus détails, toute sa piété de mère tendre. Elle-même avait choisi la cuisinière, ni trop vieille, ni trop jeune, le jardinier pouvant servir à toute besogne. Elle avait réglé les dépenses journalières, donné aux gens et aux choses la direction d'une ménagère accomplie. Un soir, après le dîner, la table desservie, Madame Dervelle tricotait. Jules, le front soucieux, rêvait. Depuis que le vicaire était parti, tous deux n'avaient pas échangé une parole.
« Eh bien, mon enfant ?»«
Quoi ? » ?»«
À quoi penses-tu ? » ?»«
Rien. » »«
Seras-tu plus sage, plus tranquille maintenant ?»«
Oui, maman. » Et Jules se leva, marcha dans la salle, fébrile, nerveux, déplaçant les chaises.
« Tu dis oui !»
soupira Madame Dervelle.
« D'un ton qui ne me rassure guère, mon pauvre Jules. Et puis je te vois toujours agité, préoccupé. On ne peut te dire un mot sans qu'aussitôt, broute, tu ne partes. Souffres-tu ? »
« Non. »
« Alors qu'est-ce que tu as ? »
« Je n'ai rien. » Et tout d'un coup, s'arrêtant de marcher, il s'écria.
« C'est vrai aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce pays perdu, au milieu de tous ces imbéciles ? Est-ce que c'est une position pour moi ?
Non, là, franchement, est-ce une position ?» Madame Dervelle laissa tomber son tricot sur ses genoux, découragée.
« Comment ? Tu as une cure excellente. Ton presbytère est charmant. Tu peux y vivre le plus heureux des hommes. Mais qu'est-ce qu'il te faut, grand Dieu ?»
Jules recommença de marcher, frappant du pied.
« Ce qu'il me faut, le sais-je. Autre chose, voilà tout. Je sens qu'il y a en moi des choses refoulées et qui m'étouffent et qui ne peuvent sortir dans l'absurde existence de curé de village à laquelle je suis éternellement condamné. Enfin, j'ai un cerveau, j'ai un cœur, j'ai des pensées, des aspirations qui ne demandent qu'à prendre des ailes et à s'envoler, loin, loin. Me battre, chanter, conquérir des peuples, enfants à la foi chrétienne. Je ne sais pas, mais curé de village. »
Il poussa un long soupir, suivi aussitôt d'un grognement de colère.
« Curé de village, ou paître des oies le long des routes, c'est tout un. Te souviens-tu du gros abbé Gibori ?»«
Qui était si drôle ?» interrompit ma grand-mère, croyant ramener un peu de gaieté dans les yeux de son fils.
« Ah, si je m'en souviens, il nous a tant fait rire autrefois. »
« T'en fais rire ?» reprit Jules qui s'irrita davantage.
« C'est bien ça, un gros porc qui ne racontait jamais que des histoires de caca. C'est ton idéal, hein, de voir les prêtres se barbouiller de leur ordure. Eh bien, sois tranquille, dans quelques années, je serai comme l'abbé Gibori. Moi aussi, je dirai en imitant le bruit des coliques débondées, « Fia, fia, fia sur les abricots !»
« Allons, allons !» supplia sa mère. « Calme-toi, méchant enfant, et seulement un peu de patience, un peu de courage, et tu seras tout ce que tu voudras. L'évêque le dit bien, mais c'est ta tête qui te perd. »
« L'évêque ? Bah, qu'en sait-il, l'évêque ? Et pourquoi m'a-t-il envoyé ici, l'évêque ? D'abord, c'est ta faute si je suis prêtre. »
La pauvre femme tressauta sur sa chaise et fit un geste de protestation étonnée.
« De ma faute ? » gémit-elle. « Ah, Seigneur Jésus, que dis-tu là ? Mais rappelle-toi, rappelle-toi. Oui, c'est de ta faute, de ta faute. »
Il s'emporta.
« Et ça me dégoûte à la fin d'être prêtre. J'en ai assez de porter cette ridicule robe. » De faire des simagrées plus ridicules encore que ma robe, de vivre comme un esclave et comme un castrat. »
Sa voix était devenue sourde, voilée. Les mots s'arrachaient de sa gorge avec des efforts violents.
« Je voudrais être Pierre l'Ermite, Jules II, Robespierre, Bossuet, Napoléon, Lamartine. Je voudrais me marier. »
Ma pauvre grand-mère poussa un cri, et, sans force contre les larmes qu'elle contenait depuis le début de cette scène, elle sanglota.
« mon Dieu, mais tu es donc le diable !»«
Bien, » fit Jules durement, « voilà que tu pleures, je m'en vais. Bonsoir. » Et il sortit en claquant la porte. Après le départ de sa mère, le presbytère lui sembla bien vide. Il s'était accoutumé à la voir près de lui, si douce, si prévenante, si active, rôdant sans cesse dans la maison où elle mettait un peu de la vie sereine, de la clarté apaisante de son âme. Il y avait des moments où cela lui faisait du bien de poser ses yeux sur ce bonnet blanc, blanc comme sont blanches les ailes d'un ange gardien, et sur ce petit châle noir, attendrissant et modeste, sous lequel se cachait tant de courage simple et tant de bonté. Et maintenant, depuis qu'elle n'était plus là, toujours la même immobilité glacée des choses, toujours le même jardin, toujours le même horizon, toujours le même vicaire aux cheveux blondasses, au visage tavelé, souriant et muet. Quand il se retrouva en tête-à-tête avec son vicaire, dont le mutisme l'agaçait et dont il sentait que la conversation l'eût agacé plus encore, le poids de sa solitude lui fut si lourd qu'il comprit qu'il ne pourrait point le supporter. Pourtant, il s'y enferma davantage, résolu à ne voir personne, à borner ses relations avec ses confrères aux obligations strictes de son sacerdoce. Il ne les reçut pas à sa table, refusa leurs invitations, ce qui désespérait le vicaire habitué aux agapes joyeuses, où il ne disait jamais un mot et où il prenait un plaisir énorme et silencieux. Quant aux conférences, il négligea de s'y montrer et trouva des excuses dédaigneuses pour qu'elles n'eussent pas lieu chez lui. Une fois que le curé doyen lui reprochait cette abstention, Jules répondit « Je paie ma cotisation, et je vous laisse ma part du dîner. Que désirez-vous encore? Je n'ai point le goût ni l'estomac de ces petites pochardes canoniques. Quand j'ai des saletés à faire, je les fais tout seul et je me cache. » Au fond, l'important était qu'il payât la cotisation. Il fut convenu à l'un de ces dîners qu'on le laisserait tranquille.
« Il est si aimable. C'est un ours mal léché. »
« Un ours ! Dites, un bâton, mère de Dieu !» Cette plaisanterie obtint un succès si colossal qu'on appela plus Jules dans les presbytères que le curé mère de Dieu. Tel il avait été à l'évêché, tel il fut dans sa paroisse, qu'il ne tarda pas à désorganiser de fond en comble. Pour vaincre l'ennui, il s'amusa à révoquer les chantres, le bedeau, le suisse, le sacristain. Jusqu'aux enfants de cœur, il renouvela tout le personnel de l'église, bouleversa le conseil de fabrique par un accaparement abusif de l'autorité, et se mit en lutte ouverte, acharnée, contre le maire et le conseil municipal. Bientôt, en haine du curé, l'esprit d'irréligion souffla sur ce petit coin de terre, autrefois si tranquille et si soumis. Et l'on vit ce qui ne s'était jamais vu encore, un enterrement civil. Le dimanche, aux heures des offices, l'église resta presque vide de fidèles, à l'exception de quelques dévotes obstinées qui ne comptaient pas, faisant pour ainsi dire partie du mobilier ecclésiastique. Et les choses en vinrent à une telle intensité d'excitation que le maire et le curé, s'étant rencontrés, une matinée derrière le cimetière, dans un chemin, se prirent de querelles et se battirent comme des portefaix. Dans une dénonciation anonyme adressée à l'évêque, on lisait ceci. Enfin, monseigneur, depuis l'arrivée du curé d'Hervel, le nombre des cabarets, qui n'était que de 18 sur une population de 1053 âmes, s'est accru dans une proportion scandaleuse. Il est actuellement de 46. C'est la ruine morale de la paroisse. Ces distractions ne suffisaient pas à remplir les journées de Jules. Tout en continuant d'exaspérer ses paroissiens par d'incessantes vexations, il eut alors des fantaisies, des caprices, auxquels il se livrait avec emportement, et qui ne duraient pas, et que remplaçaient d'autres caprices et d'autres fantaisies, vite abandonnées. Tour à tour, il cultiva les tulipes, apprit l'anglais, éleva des faisans, collectionna des minéraux, commença un ouvrage de philosophie religieuse qui devait régénérer le monde. Les semences de vie. Œuvre très vague et très symbolique où il faisait parler des Christs athées et babyloniens dans des paysages de rêve. La tête en feu, il traçait des gestes énormes qui résumaient des pensées et des décors grandioses, disant tout à coup « Ça et là, des pylônes !» Et Jésus s'avance parmi des foules. Une femme vient vers lui, hideuse, aveugle, avec des pieds en forme de griffes. « Qui donc es-tu ? Je suis la justice humaine. » Jésus la repousse et lui dit « Tu ne jugeras point. » Une autre femme apparaît, souriante, avec un corps et des regards d'enfant. « Qui donc es-tu ? Je suis la folle. » Et Jésus l'embrasse. « Va, ma fille !» et soit maternelle. Les difficultés de composition l'arrêtèrent dès le second chapitre et il se consacra à un livre de polémique, « Le recrutement du clergé » ou « La réforme de l'enseignement religieux », dont il n'écrivit que quelques feuillets, faute de documents, ce qui l'amena à se passionner de nouveau pour sa bibliothèque. Ensuite, il se jeta dans le spiritisme. Le soir, entre le vicaire silencieux et troublé et le jardinier ahuri et sommeillant, il s'asseyait autour d'un guéridon, et jusqu'à minuit, il évoquait Salomon, Caligula, Isabeau de Bavière, les rois formidables de Ninive, la Sulamite et Marie-Antoinette. Puis, redescendant les hauteurs des spéculations magiques, un jour, il s'installa à la cuisine. Il surveillait les fricots, goûtait aux sauces, inventait des plats compliqués, mangeait avec des goinfreries insatiables, qui donnèrent à sa chair des réveils terribles, douloureux, épuisants. Pendant 10 années, il vécut ainsi, effaré, haletant, sans une minute de répit contre les autres et contre lui-même, toujours ballotté du plus grossier désir au rêve le plus inexhaussable, précipité des cimes que hantent les aigles seuls, jusque dans l'auge immonde où les porcs se vautrent. Cette période de sa vie fut une longue torture, et je m'étonne encore aujourd'hui qu'il n'ait pas tenté de s'y arracher par le suicide. Il avait dit à sa mère, et il se disait souvent, « Je sens qu'il y a en moi des choses qui m'étouffent et qui ne peuvent sortir. » Et je me suis demandé quelquefois, quel homme aurait été mon oncle si ce bouillonnement de lave, lave de pensée, lave de passion, dont tout son être était dévoré, avait pu trouver une issue à son expansion. Peut-être un grand saint, peut-être un grand artiste, peut-être un grand criminel. Loin d'être engourdi par le narcotique de l'habitude, sa nature s'exaspéra de jour en jour. La colère prit chez lui une forme de véritable folie furieuse. C'était un navrant spectacle que de voir cet homme éloquent en arriver à ne pouvoir plus achever une phrase et à ne se servir que de mots grossiers, vite noyés dans une broue épileptique. Son opinion sur les hommes, il la résumait dans ce bruit pareil à un éternuement. « T'imbécile !» Quand on lui parlait des prêtres, il semblait que ses yeux, empourprés par un subit afflux de sang, voulussent s'élancer hors de leurs orbites.
T'imbéciles, des imbéciles.
Il se négligea et devint d'une saleté répugnante. On le rencontrait avec des soutanes sordides et trouées, des sabots dont les brides claquaient, des barbes de 8 jours. Sur son passage, aucun ne se découvrait, et les petits enfants, effrayés à son approche, s'enfuyaient en poussant des cris. Parfois aussi, on eût pu le voir qui marchait à travers les champs, en quelque sorte soulevé de terre, par l'envolée de ses grands gestes. Il pensait à l'idée interrompue des semences de vie. Ça et là, des océans. Au-dessus, le ciel. Et Jésus est debout entre les flots immobiles du ciel et les flots tourmentés des mers. Il dit à l'espace « Tu gonfleras les orgues où chante l'âme du poète ». Il dit à l'infini « Tu habiteras le regard des femmes, des idiots, des pauvres et des nouveau-nés ». Ce désordre intellectuel, cette désorientation morale, furent aggravés encore par une fièvre typhoïde dont il faillit mourir. Mon père quitta sa clientèle, s'installa au chevet de Jules et le soigna avec un admirable dévouement. Il m'a plus tard raconté ce détail particulier. Le délire eut, chez l'abbé, un caractère érotique si scandalisant que la sœur qui le veillait partit. Dans ses accès de fièvre, il prononçait des mots épouvantables et se livrait à des actes d'une effarouchante inconvenance. Il fallut lui attacher les mains. La convalescence fut longue, contrariée par le tempérament irritable du malade qui ne cessait d'injurier mon père.
« T'imbécile ! Va-t'en ! C'est toi qui me donnes la fièvre ! Est-ce que tu sais quelque chose, toi ? T'imbécile ! »
Il ne se releva que pour enterrer ma pauvre grand-mère, qu'on trouva morte, un matin, dans son lit, foudroyée par la rupture d'un anévrisme. Jules pleura sincèrement.
« C'est le chagrin qui l'a tuée, s'écriait-il. Je suis un misérable. Elle si bonne, si sainte, si sacrée, je l'ai tuée. »
Avec mon père et ma mère, il veilla la morte, voulut l'ensevelir lui-même.
« Tu es faible encore, disait mon père. Repose-toi, tu te feras du mal. »
Mais Jules répétait, « Non, non, je l'ai tuée, c'est moi. Pourquoi m'as-tu guérie? Et pourquoi est-elle morte, elle ?» Au cimetière, quand la fosse fut comblée, et tandis que la foule défilait, se disputant l'aspergeoire, il s'agenouilla sur la terre humide, se frappant la poitrine avec des gestes extravagants.
« Messieurs, gémissait-il, mesdames, je l'ai tué, pardon, pardon !»
On dut l'emporter défaillant. Ce soir-là, il n'admit point qu'on lui parlât du testament qu'avait laissé ma grand-mère, et dans lequel elle faisait le partage de sa fortune entre ses 2 fils.
« Qu'on ne me dise rien de cela, je ne veux pas d'argent, je donne tout aux pauvres !»
Mais le lendemain, ayant pris connaissance du testament, il oublia sa douleur, s'en choléra.
« Ah, mais non ! Ah, mais non, je n'accepte pas ! Je suis volé ! Je plaiderai !»
Plus tard, il se montra d'une âpreté farouche dans le partage du mobilier, menaça d'envoyer l'huissier à mon père pour un torchon, pour une casserole. Enfin, les affaires réglées, et mis en possession de l'héritage, il vendit tout ce qu'il possédait et partit pour Paris. Durant 6 ans, il ne donna aucun signe de vie. Était-il mort ou vivant? Que faisait-il? Mon père tenta, mais vainement, de recueillir quelques renseignements. On apprit que Jules avait abandonné sa cure sans autorisation, et ce fut tout. Lorsque M. Bizieux, un marchand de nouveautés de Viantais, allait à Paris pour faire ses achats, mon père lui recommandait de s'informer, de voir, de regarder dans les rues. Qui sait? Un hasard? Monsieur Bizieux revenait.
« Ah, j'en ai pourtant vu du monde, c'est pas l'embarras, mais point de monsieur l'abbé. »
Une fois, rue Grenetta, il avait croisé quelqu'un qui lui ressemblait diablement. mais ça n'était pas monsieur l'abbé.
Une autre fois, dans un café.
« Dans un café ?» disait ma mère. « Ça doit être lui !»
Alors, mon père crut avoir trouvé un moyen. Il écrivit des lettres avec cette suscription. « À Monseigneur l'archevêque de Paris, pour remettre à Monsieur l'abbé Jules d'Hervel, curé de Randonnay, Paris. » Les lettres restèrent sans réponse. Les jours s'écoulaient, les mois, les années. Et gardant malgré tout un fond de tendresse pour ce mauvais frère qu'il avait sauvé de la mort, mon père se demandait de temps en temps, intrigué et tout triste, « Mais que peut-il fabriquer à Paris ?»